Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La crise parfaite, aurore d'une alternative économique islamique durable, de Dr Mohamed Talal Lalou, est un essai en français consacré à la compréhension des crises économiques contemporaines et à la discussion d'une option de réforme inspirée par l'économie et la finance islamique. L'ouvrage se situe au croisement de l'analyse macroéconomique, de la critique du système financier classique et de la réflexion éthique sur les finalités de l'économie. En s'intéressant aux mécanismes qui alimentent l'instabilité, comme la spéculation, la déconnexion entre finance et économie réelle et certaines formes d'incitation au risque. L'auteur défend l'idée qu'un cadre islamique, fondé sur des principes de justice, de transparence et de partage des risques, peut contribuer à une stabilité plus durable. Le propos vise surtout un public déjà sensibilisé aux enjeux financiers et institutionnels et cherche à proposer une grille de lecture structurée plutôt qu'un simple plaidoyer, en reliant principes normatifs et questionnements de politique économique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre la crise comme phénomène systémique. Un axe central du livre consiste à traiter la crise économique non comme un accident isolé, mais comme le résultat de dynamiques systémiques propres à l'architecture financière moderne. Dans cette perspective, l'instabilité ne provient pas uniquement de chocs externes, mais aussi de la manière dont le crédit, les marchés et les institutions interagissent avec des incitations qui peuvent amplifier les déséquilibres. L'auteur met l'accent sur la répétition des crises et sur la logique de cycle, suggérant que certains mécanismes favorisent une accumulation de fragilité avant des corrections brutales. Cette lecture permet de déplacer le débat au lieu de se limiter à des mesures conjoncturelles. Il devient nécessaire de questionner les règles du jeu et les principes directeurs du système. En arrière-plan, l'objectif est de montrer pourquoi une réforme incrémentale peut être insuffisante si elle ne traite pas les sources structurelles de la vulnérabilité. Le livre prépare ainsi le terrain à la comparaison avec un cadre économique islamique, présenté comme une alternative dont les garde-fous visent à réduire certaines causes récurrentes d'instabilité. Deuxièmement, critique de la finance conventionnelle, spéculation et déconnexion de l'économie réelle. Lalou insiste sur des traits souvent associés aux crises financières, l'importance de la spéculation, la complexité de certains montages et la tendance à privilégier des gains de court terme au détriment d'investissements adossés à des actifs ou à une création de valeur tangible. Sans entrer dans un catalogue de produits ou de cas spécifiques, l'approche demeure conceptuelle plus la finance se détache de l'économie réelle. Plus elle peut générer des effets de levier, des bulles de prix et des comportements mimétiques difficiles à contenir. Dans cette analyse, la question de la responsabilité et de la transparence devient cruciale, car la circulation de risques mal compris ou mal répartis peut fragiliser l'ensemble du système. En mettant en avant ces points, le livre ouvre une discussion sur les limites d'un modèle centré sur la rémunération de l'argent par l'argent et sur la manière dont certaines structures contractuelles peuvent encourager une prise de risque excessive. Cette critique sert de point d'appui à la proposition d'une alternative qui réoriente la finance vers des transactions mieux reliées à des activités économiques identifiables. Troisièmement, principe de la finance islamique, interdiction du riba et partage des risques. Le livre présente la finance islamique comme un ensemble de principes normatifs susceptibles de transformer la manière de financer l'économie. L'interdiction du riba, généralement comprise comme l'exclusion de l'intérêt dans sa forme usuraire ou prédéfinie, occupe une place structurante, car elle conduit à privilégier des formes de financement fondées sur la participation, la vente, la location ou des montages, ou la rémunération aisiéb à une opération réelle. L'auteur met en avant la logique de partage des risques et des profits, qui vise à mieux aligner les intérêts des parties et à éviter une asymétrie où un acteur capte un rendement garanti tandis que l'autre supporte l'essentiel de l'incertitude. Dans cette optique, la dimension éthique n'est pas un supplément, mais un principe d'organisation économique oriente vers la justice, la transparence et une répartition plus équilibrée des responsabilités. Le propos reste global, mais souligne le potentiel stabilisateur d'un cadre qui limite certaines formes de spéculation et encourage des transactions adossées à des actifs ou à des projets. Ainsi, l'alternative islamique est présentée comme une manière de réarticuler finance et économie réelle tout en intégrant des contraintes morales et sociales. Quatrièmement, vers un cadre macroéconomique islamique, cohérence institutionnelle et régulation, au-delà des instruments financiers. L'ouvrage insiste sur la nécessité d'un cadre macroéconomique cohérent pour rendre une alternative crédible et durable. L'auteur propose une réflexion sur l'organisation des principes en système, ce qui implique des institutions, des règles de marché et des dispositifs de supervision compatibles avec les exigences de conformité à la charia, mais aussi avec les impératifs de stabilité. Cette démarche pose des questions de politique économique: comment organiser la régulation, comment encadrer la prise de risque, comment assurer la transparence contractuelle et comment favoriser une allocation des ressources orientées vers des usages productifs. Le livre met en avant la coordination entre les dimensions éthiques et techniques, suggérant qu'une finance islamique isolée, greffée sur des structures inchangées, risquerait de perdre sa spécificité ou de reproduire des fragilités du système dominant. Une approche macroéconomique permet au contraire de discuter des conditions de possibilité d'une économie plus inclusive, où la croissance et la stabilité ne reposent pas sur l'accumulation de dettes fragiles, sans prétendre fournir un plan unique applicable partout. L'ouvrage propose une grille de structuration qui relie principes, gouvernance et mécanismes de marché, afin de rendre l'alternative opérationnelle dans un environnement contemporain. En dernier lieu, durabilité, justice économique et finalité sociale de l'économie. Un autre thème important concerne la durabilité au sens large, entendue comme la capacité d'un système économique à maintenir la stabilité. La confiance et une certaine équité dans le temps. La loi associe la durabilité à des finalités sociales, limiter les pratiques jugées nuisibles, renforcer la transparence et mieux articuler performance économique et responsabilité. Dans cette optique, la crise n'est pas seulement financière, elle touche aussi la légitimité des institutions et la cohésion sociale lorsque les coûts des déséquilibres sont supportés de façon inégale. Le livre défend l'idée qu'un cadre islamique, parce qu'il intègre explicitement des normes de justice et des contraintes sur certaines formes de rémunération et de spéculation, peut contribuer à une économie plus équilibrée. Cette orientation ne se réduit pas à une opposition morale. Elle est présentée comme une hypothèse de travail pour réduire les fragilités structurelles en réintroduisant des principes de prudence et d'alignement des intérêts. Le lecteur est ainsi invité à considérer la finance non comme une fin autonome, mais comme un ensemble d'outils au service d'objectifs collectifs. La durabilité devient alors un critère de conception institutionnelle et non seulement un résultat espéré, ce qui rapproche la discussion des débats contemporains sur les modèles économiques plus responsables. En conclusion, la crise parfaite s'adresse avant tout au lecteur qui cherche une lecture structurée de la crise économique et financière. Combinant diagnostic systémique et propositions doctrinales, les étudiants et chercheurs en économie, finance islamique et politique publique y trouveront un cadre de réflexion utile pour comparer deux logiques, celle de la finance conventionnelle, souvent accusée de favoriser la spéculation et la déconnexion de l'économie réelle, et celle d'une approche islamique centrée sur le partage des risques, la transparence et des finalités sociales explicites. Les professionnels et décideurs peuvent aussi en tirer un bénéfice intellectuel, notamment pour clarifier les principes qui distinguent réellement la finance islamique et pour identifier les conditions institutionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. L'intérêt du livre réside dans son ambition de relier principes éthiques et cohérence macroéconomique, plutôt que de se limiter à une présentation technique d'instruments. Il se démarque ainsi de certains ouvrages introductifs qui se concentrent surtout sur les produits, en mettant davantage l'accent sur la logique de système et sur les sources structurelles de l'instabilité, pour un lecteur curieux d'alternatives. L'ouvrage propose une base de discussion sérieuse sur ce que pourrait signifier une alternative durable, et sur les exigences de gouvernance et de régulation que cela implique. Si vous souhaitez soutenir Dr Mohamed Talal Lalou, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.